Ah, dommage. Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
Les journalistes m'intéressent.
You are fake news.
Il est presque 9h41 et vous écoutez France Inter. Soyez les bienvenus dans l'Instant M.
Vous coupez ?
Non.
Vous êtes en direct, allez-y.
Alors, il y en a pour tous les goûts dans l'Instant M. Hier, Le Média, web télé de la gauche radicale. Ce matin, Réac'n'Roll, la nouvelle web télé des réactionnaires. Ils sont tous là, deux générations confondues. Elisabeth Lévy à la manœuvre, Alain Finkielkraut, Éric Zemmour et la nouvelle garde. Alexandre Devecchio, Barbara Lefebvre ou encore Eugénie Bastier. On dirait un peu les Avengers, une ligue de super-héros venus venger les temps d'avant et en découdre avec leur ennemi attitré, la bien-pensance. En toute décontraction, car dans la plus pure tradition de la réaction française, ou d'une réaction à la française, je dirais. La chaîne Réac'n'Roll est faite d'ironie, de bons mots, et revendique une pleine jouissance du verbe et de la controverse. Reste à comprendre comment tant de gens aux destins intellectuels et politiques si disparates, se retrouvent sous la bannière réactionnaire.
L'Instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Elisabeth Lévy.
Bonjour Sonia.
Soyez la bienvenue, directrice de la revue mensuelle Causeur, que je monte pour ceux qui nous regardent en vidéo, qui a fait sa une sur Notre-Dame des Touristes. On n'est pas à une polémique près. Réac'n'Roll est en accès payant. On vous explique tout dans deux minutes. Car, chère Elisabeth Lévy, tous les matins cette semaine, l'Instant M et le Centre National de la Cinématographie vous présentent de tout jeunes créateurs du web. Ils sont nés sur YouTube et autres réseaux sociaux, pas comme vous sur le papier et la pellicule. Ils sont en ce moment en résidence à Cannes pour créer des ponts avec le 7e.
C'est pour le cinéma ou la télé ?
Oh, les moteurs !
Vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma ?
Et vous ?
Moteurs ! Bonjour, je m'appelle Alexandra Mignien. Je suis réalisatrice et monteuse. Et je fais principalement de la fiction.
Mais qu'est-ce que c'est ?
Cinéma ! Cinéma !
J'ai réalisé il y a quelques mois un court-métrage qui s'appelle Je suis nue, qui parle du revenge porn. Quand on diffuse sans notre consentement des images de nous, que ce soit des photos, des vidéos, des images de nous nues, qu'on a parfois envoyé volontairement ou pas, et que la personne décide de partager avec la terre entière alors que c'était pas le but.
Et ces photos de vous, il les a publiées quand ?
Il y a 2 semaines.
Je peux vous demander pourquoi vous n'êtes pas venu plus tôt ?
Parce que j'avais honte.
Moi j'aime bien le film de genre, le film d'horreur, et pour parler de certains problèmes de la société, de certains problèmes de femmes, en mettant ça en scène... dans un film de monstres, dans un film de fantômes. Et j'ai l'impression que certaines personnes comprennent mieux via des métaphores. Je trouve ça bien que nous, maintenant, les femmes, on puisse, à notre manière, faire des espèces de contes modernes pour parler de nos problèmes qui sont des problèmes actuels. J'ai notamment été beaucoup influencée par des films comme Carrie, comme La Mouche, Grave, et aussi beaucoup par les séries télé. J'ai grandi à une époque où la série télé a pris une grande importance. Il n'y avait pas de condescendance envers la série télé par rapport au cinéma, ce qui n'était pas le cas pour la génération d'avant, où la série télé était un peu vue comme le petit frère handicapé du cinéma. Et j'aimais particulièrement Buffy parce que c'était une métaphore pour parler de plein de problèmes d'adolescence.
Qui es-tu ?
Je suis Buffy, la tueuse de vampires, et vous ?
La première fois sexuelle, l'entrée justement dans la vie d'adulte, en parlant d'histoire de loup-garou, de vampire, il y avait une sexualisation très masquée là-dedans, qui était hyper intéressante, et surtout, c'était une série extrêmement féministe, et je pense que ça m'a beaucoup influencée, et je pense que ça a influencé énormément de gens, et énormément d'autres séries télé.
Le seul garçon qui m'ait jamais aimé aura été un robot monstrueux. Ça veut dire quoi, à ton avis ?
Ça ne veut rien dire, Willow.
Souviens-toi, le garçon pour lequel j'avais craqué avant de venir ici, eh bien, c'était un vampire.
C'est ça, la vie aux portes de l'enfer.
Je pense que si je devais choisir un endroit de diffusion, un médium de diffusion de prédilection, je pense que je choisirais YouTube, parce que c'est celui qui permet la plus grande liberté. On peut y mettre de la fiction, on peut y mettre du podcast, on peut y mettre du clip. Et il y a une plus grande liberté que dans n'importe où ailleurs.
Coupé !
Coupé, mais une série de portraits à réécouter sur franceinter.fr.
L'Instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Naissance de la web télé Réac'n'Roll, animée par Elisabeth Lévy, mon invitée.
Bonjour François Sureau.
Bonjour Elisabeth.
Bienvenue dans l'esprit de l'escalier. Vous pouvez nous voir sur Reac'n'Roll, rnr.tv. Alors pour ceux qui...
Ça s'appelle Reac'n'Roll.
Reac'n'Roll.
Enfin, si j'aurais su, j'aurais pas venu quand même.
Il n'en revient pas du titre, votre invité, Reac'n'Roll.
Mon invité qui est François Assureau et qui n'est vraiment pas dans les réacs, je tiens à le dire.
Et ben vous allez nous expliquer ce que c'est qu'un réac façon Elisabeth Lévy. Donc j'en cite quelques-uns, Elisabeth Lévy, Éric Zemmour, Mathieu Bock-Côté, Alexandre Devecchio, Alain Finkielkraut, Barbara Lefebvre, Jenny Bastier. Alors il n'y a pas Michel Onfray qui a sa propre web TV.
Oh, mais qui viendra, j'espère. Et puis d'abord, la première chose...
Il n'y a pas Natacha Polony qui a aussi
qui viendra également, bien entendu, qui a sa web TV d'ailleurs.
On peut dire que vous avez tous un producteur commun qui
on
s'appelle François.
On a tous un producteur commun. C'est Stéphane Simon.
Simon, pardonnez-moi.
Et c'est une branche qui s'appelle Mika. Je me rappelle que c'est le I, c'est indépendante de communauté, média indépendant de communauté interactive. Donc ce sont une série de web TV. Pour tout vous avouer, il fait aussi celle d'Emeric Caron. Donc vous voyez que son spectre idéologique est assez large.
Stéphane Simon qui est aussi producteur de Thierry Ardisson.
Voilà, absolument. Mais ça n'a rien à voir. Ses activités sont totalement séparées. D'abord, je voulais revenir sur deux points. Le premier, c'est qu'il n'y aura pas un Reac'n'Roll, oui, sur plein de points, ma chère
allez-y,
Sonia,
allez-y.
Il n'y aura pas un Reac'n'Roll que des réacs. Au contraire, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas du tout le monde de l'entre-soi où tout le monde penserait pareil. On s'ennuie quand on pense la même chose. Et moi, j'adore me disputer avec mes amis. Et Reac'n'Roll, c'est un endroit où on espère dialoguer avec toutes sortes de gens avec qui on n'est pas d'accord. Et d'ailleurs, on n'est même pas d'accord entre nous sur plein de choses. Et ma chère Sonia, j'espère bien vous y inviter. Ainsi, non mais vraiment, là je suis
d'où
tout
le
à fait...
le fait que vous accueillez des journalistes de regard, que vous...
Oui, je veux dire, moi je fais une émission avec des jeunes qui s'appellent Des Racines et Diesel, c'est pas moi qui ai trouvé le titre mais ils m'amusent, et je fais, ce n'est que des jeunes, c'est moi la vieille, et évidemment là-dedans il n'y a pas du tout que des jeunes qui pensent pareil, il y a Simon Oliven aussi, qui est un jeune avocat, il y a Pablo Piavibio
qui
est un regard...
Qui a fondé le printemps républicain.
Voilà. Mais alors... je voudrais quand même revenir sur la définition de réac. Parce que réac,
c'est
pas,
c'est
réac, c'est pas, réac n'est pas réactionnaire.
Ah bon?
Non.
Alors,
on peut le contester. D'ailleurs, il y a des gens qui ne sont pas contents, des gens qui sont dans la télé, qui trouvent que le nom est un peu trop ironique pour être compris. Nous, on aime bien les blagues. Mais pour moi, réac, si vous voulez, ça a commencé il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années avec Lindenberg, le rappel à l'ordre. Et en gros, c'est un nom.
C'était un livre paru en 2002 qui s'appelait Les nouveaux réactionnaires.
Voilà. Et dans lequel il y avait des gens aussi divers que Marcel Gauchet, Michel Onfray, Pierre Manant, Alain Finkielkraut, il y avait d'ailleurs...
Alexandre Adler.
C'est très intéressant cet exemple. Donc à partir de là, c'était un mot qui était fait pour rabattre. Le réac, c'était le plouc, le facho, celui, si vous voulez, qui était l'empêcheur de devenir progressiste du monde. Un infréquentable. Ça n'a pas marché. Les réacs, comme on l'a dit
vous,
partout...
Vous l'avez écrit, Elisabeth Lévy, vous l'avez dit, cette épuration idéologique, elle a échoué.
Oui, elle
a échoué. Ça a fait de nous des emblèmes de la liberté de penser.
Oui, pas que de nous, non mais... au sens large.
Comme
et
ça,
qu'est-ce
vous
qu'on peut dire 20 ans, 15 ans ou 20 ans après? Là, c'est sérieux, si vous voulez.
C'est qu'est-ce
que
c'est très
les
sérieux,
réacs,
oui.
Il y a deux, il y a ce qu'on a appelé les réacs, il y a deux choses qu'ils ont en commun. C'est des gens qui, conformément à ce que demande Peggy, à ce que nous enseigne Peggy, Peggy dit, c'est bien de dire ce que l'on voit, mais d'abord, il faut voir ce que l'on voit. Les réacs ont vu, en 2002, en 2003, la montée de l'antisémitisme dans les banlieues, on était traités de fachos et d'islamophobes. La catastrophe scolaire, tout le monde en est maintenant convaincus, ainsi qu'un certain nombre de choses. Donc ils voyaient ce qu'ils voyaient. Ils voyaient la fragmentation française, si vous voulez, et pour cela, ils étaient traités vraiment de toutes sortes de noms d'oiseaux. On les traitait de réactionnaires pour dire que c'était des gens, en quelque sorte, d'avant les Lumières.
Mais il y a eu contre-offensive, Elisabeth Lévy, sous la plume de Taguieff, il y a eu une contre-offensive pour bien marquer le fait que le camp d'en face aussi devait avoir son appellation, celui qu'on appelle finalement le camp de la bien-pensant, ce que vous appelez le camp
de la bien-pensant. Ah bah oui, il s'appelle progressiste, moi j'appelle ça depuis Philippe Muret, qui est en quelque sorte notre imam caché, j'appelle ça le camp du bien. C'est pour ça que réac, si vous voulez, ça n'est pas en gros une assignation idéologique, et ça n'est certainement pas réactionnaire, nous sommes des gens des Lumières, malheureux en quelque sorte, des modernes, qui pensent que la modernité devient parfois folle. Le réac, c'est devenu une sorte de tribu où on s'amuse,
Alors c'est quand un peu vous le dites principe, tribu, c'est important, Elisabeth Lévy, parce que tout le monde n'a pas les codes, tout le monde n'a pas votre culture, etc. Quand vous dites une sorte de tribu et qu'on parlait des réactionnaires, ça stigmatise en réalité la conversion d'un certain nombre d'intellectuels, parfois initialement marqués à gauche, ce qui peut être difficile à comprendre pour certains.
Mais oui, ce qui est drôle, c'est que l'inverse ne serait pas difficile à comprendre.
Non, mais c'est important. Un paradigme de croyance nostalgique, on va dire que face à l'évolution...
Alors, nostalgique, mais c'est marrant, vous voyez.
Alors dites-nous,
moi, ce que je pense aujourd'hui, en réalité, si vous voulez, c'est que dans 80% de la population, y compris chez vous, d'ailleurs, ma chère Sonia, chez vous personnellement, à France Inter, il y a... vous avez quelque chose d'un réac en vous. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est obsédé par cette chose que disait Camus et que mon ami Alain Finkielkraut aime beaucoup citer, c'était les générations suivantes, je ne sais plus ce que c'était, ont dû construire le monde. Nous devons empêcher qu'il ne se défasse. Qu'est-ce que la préoccupation écologique aujourd'hui, environnementale, sinon la volonté de conserver quelque chose ? Les gens voient bien, si vous voulez, que l'idée de la table rase, l'idée qu'on va détruire tous les cadres de la vie, les nations, qu'on va détruire la langue française avec l'écriture inclusive et toutes ces billevesées, excusez-moi, qui en fait plaisent à 20% de petits groupuscules, je veux dire, eh bien, il y a beaucoup de gens qui partagent cela. Donc, ça n'est pas la nostalgie, c'est la volonté d'avoir un pied dans le nouveau monde, un pied dans l'ancien. Nous pensons, et vous aussi, vous le pensez, chère Sonia, que quelque chose du vieux monde doit être conservé. Je veux dire, Jean-Pierre Marielle vient de mourir. Je veux dire, et vous voyez, nous aimons aussi un certain nombre de choses.
Parce que vous dites, nous rassemblons des gens de droite, de gauche, des libéraux, des décroissants, des partisans de l'ordre ou des zadistes dans l'âme.
Oui.
Voilà. Vous voudriez que nous avons en commun notre amour des œuvres du passé.
Oui.
C'est quand même un peu juste.
L'amour des œuvres. Non, j'ai pas dit nous avons en commun. Quand je dis que notre amour des œuvres du passé, ça me semble fondamental. Qu'est-ce qui nous constitue ? Qu'est-ce qui nous constitue en tant qu'être humain, sinon les œuvres, les grandes œuvres qui nous ont précédés ? Or, justement, si vous voulez, un des sentiments que partage cette tribu, si vous voulez, mais qui est très diverse. Moi, j'ai des accords abyssaux avec Éric Zemmour, par exemple, pour ne prendre que ce nom-là.
Des désaccords ou des accords ?
Des désaccords abyssaux.
Bien, bien, parce que les accords abyssaux, c'était
un joli
lapsus.
J'ai aussi des points d'accord, mais j'ai des désaccords. Nous disputons entre nous. Mais vraiment, oui, je crois que introduire les générations futures aux œuvres du passé, ne pas les laisser se perdre, si vous voulez, c'est quand même le moins qu'on puisse faire à leur égard. On parle tout le temps de ces générations futures.
Mais vous savez, Elisabeth Lévy, il y a des gens fondamentalement progressistes qui ont une passion pour les œuvres du passé.
Eh bien qu'ils viennent, nous les invitons, nous serons ravis de discuter avec vous.
Ceci dit, vous venez, Elisabeth Lévy, du souverainisme, vous avez commencé avec Chevènement, vous avez rompu avec cette gauche-là, vous avez été eurosceptique, vous avez vu les rouges et les bruns...
Je suis plutôt eurosceptique, toujours.
Toujours. vous avez vu les rouges et les bruns faire alliance contre Mitterrand, vous avez vu des
les paysages... rouges et les bruns faire alliance contre Mitterrand,
des configurations idéologiques changées au moment de la guerre en Yougoslavie. Vous avez fréquenté des anciens du Front National et du Parti Communiste Français.
Non mais vous allez finir en donnant mon âge canonique là.
Non, mais tout ça, Elisabeth Lévy, tout ça est peut-être très lisible pour vous et pour une partie de votre tribu, et souvent difficile à comprendre pour une grande partie du public. Or là, vous faites un média à grand public. Vous faites un média à grand public de la même manière que vous et beaucoup d'entre vous êtes invités absolument partout.
Je le répète, nous ne sommes pas bâillonnés. Ce que nous voulons faire, c'est mais je n'ai jamais écrit nulle part que j'étais bâillonnée. Jamais. On me reproche en permanence, on dit « Ah, Elisabeth Lévy se dit bâillonnée, elle est partout. Je ne suis pas assez sotte, si vous voulez. Je suis moi-même consciente de mon emploi du temps. Je sais que je suis...
hyper visible.
Peut-être trop, mais en tous les cas, je travaille dans des médias. Je vais à CNews régulièrement.
D'ailleurs, c'est une question. Vous avez choisi un modèle payant, 5 euros par mois, c'est pas rien. Et donc, ça veut dire que vous demandez aux gens de payer pour des Elisabeth Lévy, des Alain Finkielkraut, des Eugénie Bastier.
Vous savez ce qu'on va faire sur Rock'n'Roll ? On va laisser les gens s'exprimer pendant plus d'une minute. Alors, je suis sûre que vous aimez ça, vous aussi. Et je vais... D'abord, la première chose, c'est que, évidemment, il ne s'agit surtout pas de payer 5 euros pour voir Elisabeth Lévy, comme l'a dit un commentateur peu aimable, mais il avait raison. Je veux dire, évidemment, c'est pour voir d'autres gens. Et surtout, c'est pour voir bien d'autres gens que vous connaissez moins, que vous vous voyez moins, mais c'est surtout, si vous voulez, pour les voir dans un autre cadre. La télé, par définition, un dispositif qui est un dispositif contraignant. Mmh. Alors nous serons peut-être moins un spectacle, en tous les cas dans un premier temps, ne serait-ce que pour des raisons de moyens, et nous essaierons de nous améliorer, parce que je crois qu'il ne faut pas seulement rester autour d'une table à parler, on va aussi faire des reportages, mais dans un deuxième temps. Mais simplement, chez nous par exemple, je viens ce matin, je crois, ou hier, on a mis en ligne l'entretien avec François Sureau, je reprends cet exemple parce que je l'ai trouvé très bien, et qu'il n'est pas du tout réac, lui, je le répète, il n'a rien
moi,
à voir avec
ça. Pour
cette...
avoir regardé, la plupart du temps, enfin de ce que j'ai vu de vos débuts, les entretiens sont de bonne tenue, ce qui prouve aussi que vous invitez des gens qui sont très habitués du micro.
Non, mais attendez, ils sont surtout, excusez-moi, quand vous invitez un intellectuel et que vous le laissez parler pendant 45 minutes, c'est-à-dire qu'il peut dérouler son idée.
Il en sort des
choses. Il est forcément bon, il est forcément meilleur. Or, moi, je ne prétends pas que la télé ne fait pas du tout son boulot. La télé, par définition, est beaucoup plus grand public, si vous voulez. Elle doit ne déplaire. La télévision ne peut pas déplaire à des niches du public.
Je voudrais juste,
dire que c'est très important. Chez nous, les gens peuvent parler longtemps.
Alors, on peut parler et on peut s'engueuler, on peut se disputer.
Oui.
On peut.
La dispute civilisée et amicale, vous savez bien que j'adore ça.
Vous aimez ça, vous adorez ça, vous l'avez écrit il n'y a pas longtemps. On n'est pas d'accord, on se dispute, le ton monte, on laisse échapper des noms d'oiseaux et la plupart du temps, on se sépare, bons amis et on oublie.
Oui.
Vous vous méfiez des gens qui critiquent la culture du clash, vous dites qu'ils veulent nous imposer la culture du consensus. Je me demande, moi, si
non,
ça.
Ça.
Si ça, vous l'avez écrit. Je me demande, moi, si ça, c'est pas un sport de riche. Je vous explique. Je dis pas un sport de riche financièrement, mais intellectuellement.
J'ai compris.
C'est-à-dire que quand on sait qui est qui a écrit quoi, qui est l'héritier de qui nourrit quoi comme courant et comme débat, finalement, la dispute et la grosse engueulade, ça enrichit. Mais quand on ne sait pas, qu'est-ce qu'on voit? On voit de la colère à l'écran.
Est-ce que je peux vous répondre vite, parce que je vois le temps
alors,
filer.
Alors, allez-y.
Donc, premièrement, quand il arrive un clash, et là, vous faites allusion à une émission de Pascal Praud.
Non, mais en général,
je ne le revendique pas, je dis, quand on a des discussions libres, le risque, si vous voulez, de l'engueulade, on ne peut pas l'éliminer.
Ouais.
Bien sûr, il est préférable de ne pas en avoir, c'est-à-dire, il est préférable de se disputer en rigolant et en s'aimant bien et en le montrant. Mmh. Donc, quand il arrive un clash, c'est plutôt un échec. Mais la réalité, c'est que c'est souvent le temps qui est responsable de cela. Si les gens parlent longtemps, qu'ils ont le temps de contre-argumenter, ils ne se sentent pas obligés de vous... ils sont pas portés à vous aboyer dessus pour faire passer leur idée. Donc, c'est aussi une question de dispositif. Mais je vous assure, là, je vais défendre aussi Pascal Praud quand même, avec qui je travaille. Je veux dire, quand il arrive un incident comme ça arrive, personne n'en est content, contrairement à ce qu'on nous dit, vous voulez faire ça pour faire du buzz. Franchement, je veux dire, on se passerait d'un tel buzz, donc surtout et de la manipulation qui a suivi derrière. Donc je vous assure, on aime se disputer amicalement. Venez vous disputer avec moi, Sonia.
Les mois qui se sont passés, mois de contestation gilet jaune, je me mets à la place d'un gilet jaune sur Facebook Live qui regarde la télévision. Finalement, vous incarnez aujourd'hui, vous et vos camarades, autant l'hégémonie médiatique que le camp de la bien-pensance.
Non, c'est pas tout à fait vrai. Vous confondez hégémonie et majorité, si
alors,
vous voulez.
Ouais,
bah non, parce que l'hégémonie, si vous voulez, c'est quand même une pensée qui est considérée, si vous voulez, dans un certain nombre, dans tous les cas, de médias et d'endroits de pouvoir, comme la pensée, évidemment, la bonne, si vous voulez. Donc, je ne crois pas que l'hégémonie de ce qu'on appelle aujourd'hui le progressisme est complètement disparue. Mais maintenant, excusez-moi, ça fait 20 ans qu'on se bat. Alors, il faut bien qu'on ait un peu gagné. Qu'on ait remporté quelques batailles contre vous, ma chère.
En
tous les cas, Sonia, je vous invite, quand vous voulez, à Rock'n'Roll, et je vous assure que les gens de France Inter sont les bienvenus pour venir s'engueuler chez nous.
Web télé, donc, payante, Rock'n'Roll, qui, donc, arrive en ligne cette semaine.
Merci, Sonia.
Et on se quitte, donc, sur cette victoire des Réac. Bonjour, Ali Rémy.
Bonjour, Sonia.
C'est un peu tendancieux, j'ai dit que nous avions marqué des points.
Mais vous avez gagné.
Mais ça vous étonne tellement.
Allez, ça vous étonne tellement
de ne pas être toujours
s'il vous plaît. Je suis accompagné ce matin de Gabin, qui est étudiant en BTS audiovisuel, dans le cadre du DUOD, un programme qui favorise l'inclusion des personnes en situation de handicap. Il va parler au micro, il n'est pas là juste aussi pour ton
observation. Gabin, on vous écoute.
Tout à l'heure, il va parler au micro tout à l'heure. Et donc, c'est la folie du yoga. Comment expliquer la folie de cette discipline indienne partout en Occident? N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000.
Voilà, vous appelez Ali et vous appelez Gabin aussi.